Radio J, jeudi 15h-16h, Steve Nadjar.
Merci de passer votre après-midi sur Radio J en ce 11 novembre. On va parler livres maintenant. Bonjour Shlomo Malka.
Bonjour Steve.
On vous retrouve désormais le jeudi à 15h30 et des poussières pour Pont Neuf, consacré chaque semaine à l'actualité du livre. Pont Neuf, chers auditeurs, désormais diffusé un peu plus tôt tous les jeudis. Vous retrouverez Philosophie, l'émission de Blandine Crégel à 16h05. Shlomo Malka, vous recevez aujourd'hui Elena Beauvau pour son livre Pensée de la foule, pensée de l'inconscient, généalogie de la psychologie des foules entre 1875 et 1895. C'est publié aux éditions Presse Universitaire de Franche-Comté.
Elena Beauvau, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Pont-Neuf. Je vous présente. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Franche-Comté et vous travaillez depuis quelque temps sur le phénomène de la foule. Phénomène extrêmement intéressant. Et je voudrais vous demander d'abord de nous dire qu'est-ce qu'une foule ? Comment se définit une foule ? Quelle est l'origine étymologique du mot ? Et comment est-ce qu'on la distingue de la masse, du peuple, de la tourbe, de la horde ?
Peut-être commencer par l'origine étymologique, effectivement, qui est intéressant. Le mot foule vient en fait du verbe fouler. Et le verbe fouler désigne l'opération qui consiste à presser les langes pour les faire rétrécir. Le mot fouler vient du latin fullare. Et le mot foulard, le mot aussi foulo, indique celui qui lave les tissus et qui les presse, qui les fait rétrécir. Donc, ce qui est intéressant dans cette origine, en fait, c'est l'idée que la foule...
Alors, quel est le rapport entre le rétrécissement du linge et la, et la foule ?
Ce qui est intéressant, c'est que le mot donc foulé, qui se ressent dans le mot foule, porte en soi cette idée de se faire presser. Ce qui se passe dans la foule, c'est justement les contacts de corps, un corps sur l'autre, un corps qui est pressé par l'autre, ce qui produit justement un phénomène de transformation de la personnalité. En tout cas, c'est ce que nous disent les premiers psychologues de la foule de la fin du 19e siècle. Et vous disiez alors...
Pourquoi les Français et les Italiens préfèrent utiliser le mot foule alors que les Allemands ont recours plutôt au mot masse.
Alors, la psychologie de foule, en fait, dont je me suis occupée comme science, naît en Italie et en France à la fin du 19e siècle. Elle naît, en fait, elle a été connue par Gustave Le Bon, qui est auteur de la psychologie de foule fin 19e, mais en vérité, elle a été vraiment le fruit d'un dialogue entre Italiens et Français. Et c'est vrai que ces auteurs parlent de foule. Alors, pourquoi les Allemands ont préféré le mot masse ? En fait, ce qui se passe, c'est que le livre de Gustave Le Bon, qui est un best-seller à l'époque...
Psychologie des foules.
Voilà, est traduit en allemand très vite, en 1908, je crois, oui. Et il est traduit par le mot masse, psychologie der Massen. À partir de ces moments-là, donc à partir de 1908, c'est le mot masse qui l'emporte. Et le fameux essai de Freud de 1921 est traduit en français par psychologie des foules, analyse du moi. Mais en vérité, en allemand, c'est encore une fois psychologie der Massen. Donc, c'est le mot masse qui l'emporte. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de ce moment-là, on parlera de masse.
Alors, pourquoi... D'abord, une chose. Est-ce qu'il y a... parce que vous en parlez beaucoup dans votre livre. Est-ce qu'il y a un bon sens de la foule ? Est-ce que la foule a une intelligence ou est-ce que le caractère irrationnel ou instinctif domine ?
Alors, la base de la psychologie des foules, enfin en tout cas telle qu'il la théorise ses auteurs de la fin du 19e, c'est que la foule est habitée par l'inconscient. C'est-à-dire, alors l'inconscient n'est pas encore l'inconscient freudien, c'est une sorte d'inconscient collectif. C'est-à-dire que dans la foule, précisément par cet effet des contacts de corps, l'individu subit une transformation. Ce sont donc ses instincts, ses passions, son côté irrationnel, féminin, ils disent beaucoup, hein, qui émerge. Et donc, c'est tout d'abord le côté irrationnel qui apparaît. Mais il est vrai qu'il y a aussi un bon sens, d'une certaine manière, de la foule, en tout cas, qui est théorisé surtout par les auteurs italiens, dans la mesure où la foule, parfois, ressent là où il faut aller. Et elle s'ébat pour des raisons qui sont réelles. Et donc, elle va droit au but. Mais il est vrai que c'est surtout l'aspect irrationnel qui domine, hein, cette fin du XIXe siècle.
Alors, on va parler tout à l'heure de la foule et l'affaire Dreyfus, la foule et le phénomène Boulanger, la foule et les gilets jaunes. Mais d'abord, pourquoi le concept de foule est-il tombé en désuétude comme objet de recherche et comment vous avez décidé de l'en sortir? Pourquoi vous avez décidé de focaliser votre recherche dans ce livre « Pensée de la foule » Pourquoi vous avez choisi ce thème? Moi, je vous connaissais comme spécialiste de Lévinas. Pourquoi vous vous êtes tout d'un coup décidé à vous consacrer à la foule?
Alors... Il est vrai que la foule est tombée en désuétude à un moment donné, n'est-ce pas? Elle était centrale, elle apparaissait comme un thème central à la fin du 19e siècle, dans la première partie du 20e, pour parler des classes sociales, pour parler de l'histoire, pour parler en fait de beaucoup de choses de la société. Et puis je dirais... Après la Deuxième Guerre mondiale, elle a commencé d'autres thèmes philosophiques, certainement, donc après la Deuxième Guerre mondiale et les catastrophes de la Deuxième Guerre mondiale, d'autres thèmes ont pris de l'importance. Je m'y suis intéressée parce que j'ai commencé à me demander, est-ce que le thème de la foule est comme certains meubles qui sont passés de mode, mais qui ne sont pas classiques? Est-ce que c'est quelque chose qui sent les vieux? Ou est-ce que c'est un concept qui a été mis d'à côté mais que peut-être représente toujours quelque chose? Et il est vrai aussi que la foule, il me semble, les dernières années, s'est manifestée, a continué à se manifester, y compris dans les réseaux sociaux, dans une forme donc anonyme et sans corps.
On va en parler dans un instant. Dites-nous d'abord une chose simple. Est-ce qu'une foule peut exister s'il n'y a pas de meneur? Est-ce qu'elle peut être indépendante de tout leadership et exister par elle-même?
Alors, la foule dont je parle, la foule dont on parle dans la psychologie des foules, est une foule, ce n'est pas la foule du marché. Ce n'est pas la foule des Champs-Élysées, ce n'est pas une foule qui marche chacun de son côté. On l'appelle foule psychologique parce qu'elle est habitée par une volonté commune. C'est ce qui définit la foule psychologique. Donc... qui dit volonté commune dit, il me semble, un leader qui l'incarne, ou en tout cas un leader qui montre la direction. On ne peut pas avoir des centaines, des milliers de personnes avec une volonté commune s'il n'y a pas une volonté d'un leader qui s'impose et qui, d'une certaine manière, attire la foule. Donc, une foule psychologique, je dirais, elle est difficile à concevoir sans un leader. Qui peut être aussi un idéal ou un principe, mais qui souvent est incarné par une personne, je dirais.
Et ce qui est intéressant aussi dans votre recherche, c'est de savoir pourquoi un individu au sein d'une foule peut tout d'un coup exercer un acte violent qu'il n'aurait pas commis s'il était seul, s'il n'était pas dans le cadre d'une foule.
Alors là, ce que vous dites est pour moi effectivement le cœur et peut-être l'apport le plus important de cette science, je le rappelle, qui a disparu. Hein. Elle n'existe plus comme science aujourd'hui. Elle a existé, puis elle a fini d'exister. Mais je pense que l'apport le plus important, c'est le constat, en effet, qu'un individu en foule subit une aliénation. Et comme vous le dites, il peut commettre un acte violent qu'en situation normale, il n'aurait jamais commis. Pourquoi ? Selon ces auteurs de fin 19e siècle, c'est parce que la foule, en fait, fait ressortir les instincts, précisément par cette compression de corps, précisément parce qu'on est caché par le corps de l'autre, précisément parce qu'on a l'impression que l'individu s'épère, les instincts qui sont normalement cachés en société réapparaissent. Dans un sentiment, je dirais, d'impunité. Hein. Donc, l'explication que eux donnent est une explication pré-freudienne, mais intéressante. C'est comme si en foule, on était caché et donc les instants, d'une certaine manière, réémergeaient. Ce qui explique encore aujourd'hui, peut-être en partie, pourquoi en foule, souvent apparaissent des actes violents.
Alors, on va parler des foules, des gilets jaunes, des foules de la Révolution française, etc., parce que vous en parlez aussi, pas des gilets
non.
jaunes, je crois pas. Mais auparavant, je vais demander à Steve de vous souhaitiez poser une question
Absolument.
Sur le phénomène de la foule.
Est-ce qu'on peut parler à l'ère numérique de foule 2.0? Est-ce que, selon vous, c'est un concept opératoire? Est-ce que ces foules numériques disposent finalement d'avantages particuliers sur les foules, disons, classiques, les foules matérielles, notamment en raison de leur capacité exceptionnelle de mobilisation et, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur leur impunité, souvent sur les réseaux sociaux?
Alors, je signale d'ailleurs, pardon, au passage, que Gilles William Goldnadel a fait, que je recevrai dimanche prochain, soit dit au passage, dans le cadre car politique, eh ben, il a fait un livre qui s'appelle « La foule médiatique ». Et ça rejoint un peu vos préoccupations. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des foules médiatiques?
Alors, je commence peut-être par une citation. En fait, Gustave Le Bon, qui a été l'auteur le plus célèbre, même si le plus controversé des psychologues de foule, dit, en 1895, il dit « Nous sommes rentrés dans l'ère de foule ». Et quelques années après, en fait, Gabriel Tarde, qui a beaucoup discuté de la foule et beaucoup pensé la foule, donc à fin du siècle, il dit « Nous avons terminé avec l'ère de la foule, nous sommes rentrés dans l'ère du public ». Et c'est intéressant, il est dit au moment de l'affaire Dreyfus, en fait. Et l'affaire Dreyfus pourrait constituer, peut-être, dans notre discussion en tout cas, les points de départ de la foule numérique. Parce que qu'est-ce que la foule pendant l'affaire Dreyfus? En fait, c'est une foule des lecteurs qui lisent la presse et, dans ce qui intéresse Gustave Le Bon, qui lisent et qui sont influencés, suggestionnés par la presse anti-Dreyfusarde et qui donc, dans leur impunité des lecteurs, c'est-à-dire dans une impunité qui est encore plus forte qu'un individu en foule puisqu'ils sont cachés totalement, ils exercent donc une action, dans ces cas-là néfaste, mais ils exercent une action. Donc oui, une foule médiatique, en ce sens, peut exister. D'autant plus qu'elle est, comme disait Tarde par rapport au public, élastique. Elle peut durer dans le temps. Elle n'est pas soumise, par exemple, comme une foule concrète, aux conditions du froid, du chaud, de la faim, de la soif. Et donc, elle peut exercer en toute impunité, précisément parce que l'individu est caché dans la foule. En fait, est-ce que je vous ai répondu?
Oui, je crois.
Alors, on voit la prof. Hein.
La bonne prof.
La bonne prof. Exactement. Elle s'enquiert toujours de savoir si la réponse est...
C'est la marque des grandes profs.
Voilà, absolument. Alors, je vais poursuivre dans cet esprit ou dans cette ligne. Est-ce que la foule n'est pas aussi légère? Est-ce qu'elle n'est pas aussi un peu, est-ce qu'elle n'en fait pas qu'à sa tête? On sait que la foule parisienne a applaudi Pétain et la même foule parisienne, quelques années après, a applaudi De Gaulle. On sait que l'affaire Dreyfus, il y a eu une foule pour Dreyfus, pour l'insulter, pour crier mort aux traîtres, etc. Et une autre foule avec Peggy, avec d'autres personnes qui ont défendu Dreyfus. Est-ce que la marque de la foule, c'est pas justement sa légèreté?
Je réponds toujours à travers les auteurs, naturellement. Ce n'est pas mon point de vue qui est intéressant. La foule est manipulable, elle n'est pas légère. Elle n'est absolument pas légère. Elle est manipulable. C'est-à-dire, oui, il y a une foule qui a applaudi Pétain et une autre qui a applaudi De Gaulle. Parce que la foule est incarnée, justement, et la volonté de la foule est orientée par les leaders du moment, en ce sens-là. Et donc, oui, c'est tout à fait ce que vous dites, est tout à fait dans le sens de la psychologie des foules. La psychologie des foules, elle n'est pas légère, je dirais, elle est manipulable. Et en ce sens, elle peut donner les meilleurs comme les pires, selon les leaders qu'elle... qu'elle suit, en fait. Et la force du leader est de capter les désirs et les instincts et la volonté cachée de la foule, en fait. C'est ça qui fait la force du leader pour ces auteurs-là.
Et comment vous percevez la foule des Gilets jaunes ? C'est une foule qui commence plutôt bon enfant, avec des revendications qui sont légitimes, et puis tout d'un coup, ça prend une autre tournure et ça devient tous les samedis des violences contre les flics et contre tous ceux qui ne manifestent pas.
Alors, je ne vais pas parler des Gilets jaunes. Je ne vais pas parler des Gilets jaunes parce que ce que j'ai voulu faire dans ces livres, c'est
donner... Mais vous parlez quand même de, oui. Vous parlez quand même du phénomène Boulanger, oui, oui. Vous parlez quand même, oui, de la Révolution française.
Mais je vais vous dire pourquoi je ne veux pas en parler. J'ai parlé de ces faits-là parce qu'ils sont historiques d'une certaine manière. Donc voilà, je ne vais pas parler des Gilets jaunes, non pas parce que je ne veux pas m'exposer, mais parce que c'est un phénomène en cours et que j'ai besoin de l'étudier avant de dire quoi que ce soit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les éléments de la psychologie des foules pour analyser aussi la violence peut-être des Gilets jaunes. Mais je ne voudrais pas, moi, aujourd'hui, m'exprimer sur les Gilets jaunes.
Je comprends. Alors, disons un mot du phénomène Boulanger et un mot de la Révolution française.
Alors, oui, on peut dire que la Révolution française est, pour tous ses auteurs, fin 19e, l'emblème de la foule. On peut même dire que...
Sur la Révolution française, on dit plutôt le peuple que la foule.
Eh ben non, en fait, ça dépend des historiens. Vous avez des historiens comme Michelet, par exemple, voilà, Jules Michelet, quand il parle de la foule avec une sagesse, c'est la foule du 14 juillet, qui va à la Bastille, elle. Alors, cette foule-là a une sagesse. Ces peuples-là ont une sagesse. Mais quand on parle, par exemple, de la foule des massacres de septembre, alors là, ce n'est plus le peuple, c'est la foule. Et donc, ce que vous dites est intéressant, c'est-à-dire un historien qui a un regard critique sur la Révolution française, comme Taine ou comme Ducamp, parlera de foule. Un historien qui a plutôt à cœur de défendre la Révolution française pour des raisons idéologiques parlera plutôt de peuple. Et Michelet, qui montre les deux aspects de la foule, elle est plus intéressante en ce sens parce qu'il parle tantôt de foule, tantôt de peuple. Mais vous avez raison, la foule, pour les historiens de la Révolution française, quand on parle de foule, c'est que le regard est négatif. La foule n'est pas une valeur neutre, je pense, pour aucun d'entre nous. La foule a une valeur négative, porte en elle quelque chose de négatif. Ou en tout cas de violent, d'archaïque, d'ancestral, de passionnel, d'irrationnel.
Comment est-ce que vous diriez, Elena Beauvau, que la science des foules a disparu ou est-ce qu'elle est toujours là ? Est-ce qu'il y a encore des historiens en dehors de vous qui s'intéressent à la chose ?
Alors, ce sont des historiens. Ce ne sont pas des psychologues de foule. C'est-à-dire, alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est la psychologie des foules a été une science, mais... Elle a été une science qui n'a jamais été bien accueillie à l'université. Et d'ailleurs, tous les psychologues de foule sont des chercheurs, des juristes, tantôt des juristes, des médecins, qui avaient du mal avec l'institution, qui ne rentrent pas dans l'institution. Donc c'est une science qui a toujours peiné, je dirais, à rentrer dans l'institution. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Les personnes qui s'en occupent sont des historiens qui essayent d'étudier la psychologie des foules. Mais la psychologie des foules, comme science, n'existe plus.
Alors, on est passé quand même de ce qu'on appelait la psychologie collective à la psychologie des foules. Et cette discipline est née de cette manière, non ?
Alors, la psychologie de collective est autre chose, en effet. La psychologie des foules, elle a des propres qu'elle prend comme analyse une collectivité provisoire, hétérogène et temporaire qui est la foule. La psychologie collective, elle s'intéresse à d'autres collectivités que la foule. Hein. Donc c'est... Mais alors, vous savez, la psychologie des foules, pourquoi elle a été aussi... Elle est passée sous silence. Pourquoi elle a été définie une science maudite ? Cela vient certainement pas, disons, des juristes italiens qui l'ont étudiée. Cela vient de celui qui est le plus important et qui l'a rendue célèbre et qui a eu son heure de célébrité, qui est Gustave Le Bon. Et pourquoi Gustave Le Bon a donné cette tonalité à la foule ? Par le caractère racialiste raciste dans son livre et par le côté idéologique élitiste. Hein. C'est la raison pour laquelle toute la psychologie de Foule a été vue sous les yeux, par les yeux de Gustave Le Bon. Qui a été, vous savez, il est souvent considéré comme l'inspirateur de Mussolini et d'Hitler, en fait. Ce qui fait que toute la psychologie de Foule, après, a été vue comme ça.
Alors qu'en vérité... C'est-à-dire que certains historiens lui ont collé une étiquette de fasciste ou de proto-fasciste, et d'autres ont considéré qu'il était visionnaire.
Oui, alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il y a eu toute une historiographie, n'est-ce pas, qui a voulu voir... parfois aussi par commodité, en Gustave Le Bon, l'inspirateur de dictateurs du XXe siècle. Et d'ailleurs, très souvent, on cite Mussolini et Hitler et pas Staline, ce qui est intéressant. Or, il n'y a aucune preuve, d'ailleurs, il n'y a aucune preuve que Hitler ait lu Gustave Le Bon. Il y avait, et je termine à l'époque, par contre, tout un ensemble d'idées qui circulaient sur la foule, qui ont certainement influencé les dictateurs, mais ce n'est pas Gustave Le Bon qui les a inventées.
Dernière question. Il y a une romancière italienne que j'aime beaucoup, que vous connaissez sûrement, napolitaine, qui s'appelle Elena Ferrante. Elle a écrit un jour « Le moi est une foule ». Qu'est-ce que ça vous inspire ?« Le moi est une foule ».
Alors, je pense qu'elle est très, très, très lointaine de la psychologie des foules. Je pense, pour ceux que je connais, cette écrivaine, je pense qu'elle ne parlait absolument pas de la foule telle que nous l'avons... dont nous en avons parlé. Je pense qu'elle veut dire que, tout simplement, que le moi est constitué de beaucoup de moi et de beaucoup de possibilités, en fait.
Merci Elena Beauvau. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Franche-Comté et vous êtes l'auteur de ce livre sur la foule aux presses universitaires de Franche-Comté.
Merci à vous.
Merci Shlomo, à la semaine prochaine.
Radio J, jeudi 15h-16h, Steve Nadjar.
Chers auditeurs, on va se retrouver dans une poignée de secondes au programme Le Journal à 16h, suivi de Philosophie, l'émission de Blandine Crégel. Puis je vous invite à prêter l'oreille sur nos programmes du soir. À 21h, le grand entretien sera présenté par Raffi Marciano. Il reçoit ce soir le théologien Antoine Guggenheim et Franklin Roski, le directeur des études à l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel. Thème de leur échange ce soir, Nostra Aetate et la figure de Jésus, juif et chrétien. Bon après-midi à l'écoute de Radio J.